Il est 13h30, vous écoutez France Inter, les jours du siècle avec Ladislas de Hoyos.
Bonjour, aujourd'hui le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie.
Le quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. Ne quittez pas l'écoute.
Les jours du siècle.
Tout le monde connaît, les Alliés débarquent en Normandie à 6h30 du matin, le 6 juin 1944. C'est le tournant de la guerre qui va se terminer 11 mois plus tard par la capitulation de l'Allemagne nazie. Mais ce que l'on ne sait pas toujours dans cette histoire du jour J, c'est la préparation énorme que le débarquement avait nécessité. Le coup de bluff qui avait fait croire que l'attaque alliée allait se passer ailleurs, la synchronisation des bombardements, les parachutages, les raids de l'aviation, etc., etc. La mise en place d'une logistique gigantesque pour attaquer de front le point le mieux défendu de l'Europe envahie par Hitler. Ce que l'on ne sait pas aussi, c'est que la France avait pratiquement été exclue de l'opération. De Gaulle n'avait été mis au courant que l'avant-veille, par Churchill d'abord, puis par le général américain Eisenhower, et mis à part le très grand travail de sabotage organisé par la résistance, le drapeau français n'apparaissait pour ainsi dire pas parmi les 155 000 hommes qui ont déferlé ce jour-là sur les plages de Normandie. Et ce que l'on ne sait pas également, c'est que cette opération, décidée sur le bon vouloir de la météo, il fallait que le temps s'y prête et que la lune permette aux planeurs de se poser, ce que l'on ne sait pas, c'est qu'il y avait sur le papier plus de risques d'échouer que de chances de réussir. Alors, imaginez au soleil levant ce qu'ont découvert soudain les soldats allemands de garde ce matin-là, bien à l'abri des fortifications du mur de l'Atlantique, ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire des centaines de bateaux, puis encore d'autres et encore d'autres, 1200 bâtiments de guerre, 5700 bateaux de transport, la plus grande armada de tous les temps, soudain, là, tout près, au bout des jumelles. Pour nous parler du débarquement, je reçois l'un de ceux qui connaît le mieux cette page d'histoire, Eddy Florentin, résistant et déporté. Monsieur Florentin, bonjour.
Bonjour.
Où étiez-vous ce jour-là, le jour J ou le D-Day, si vous préférez?
J'étais encore à Paris, je n'avais pas encore été arrêté, dans une pension de famille, sous une fausse identité. Et nous n'avons appris le débarquement que sur le tard. Hein. J'ai reçu un coup de téléphone de mon frère qui me disait simplement... ça y est. Et j'ai répondu, ça y est quoi? Ça y est, c'est tout ce que je peux te dire, t'as qu'à comprendre, ça y est. Et nous sommes sortis avec un étudiant, et ça je m'en souviens, nous avons décidé de faire une inspection du front, une inspection du climat de la ville. Cette pension de famille se trouvait place Lucien R, du côté de la rue Gay-Lussac. Nous avons descendu le boulevard Saint-Michel, et tout était calme, et on était très déçus, parce que la vie à Paris continuait normalement toute la matinée jusqu'à la parution du journal Paris Midi. Alors, Paris Midi, où publiait Paul Schack, vous savez, c'était l'éditorialiste, Paris Midi publie, mais qu'en quatrième ou en cinquième colonne et en caractère gras, 30 lignes, pas plus, 30-35 lignes titrées « Parachutistes en baie de Seine ». Cette nuit, des parachutistes sont tombés en baie de Seine, on en a recueilli à Dozulé, plutôt Troarn et dans le bois de Bavant, ainsi que du côté du Havre. C'était pratiquement faux, car aucune de ces villes n'a été une zone de largage, et encore moins le Havre, où, il est vrai, les demises, les faux parachutistes, avaient été parachutés afin de perturber la défense allemande.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Vous me disiez qu'on s'était voir où c'était.
Oui, exactement. On s'est rué dans les librairies ont été dévalisées. Hein. Les Parisiens de cette époque doivent s'en souvenir. Les librairies ont été dévalisées. Je crois qu'il n'y avait pas de carte Michelin disponible à l'époque. Il y avait des cartes tarides. Et on s'est précipité pour savoir où se trouvaient ces foutus patelins, si j'ose dire, qui s'appellent plutôt Dozulé, Troarn et Bavant. Et on a vu que c'était un peu à l'intérieur des terres, mais on n'en a pas tout de suite déduit le débarquement. Il a fallu les émissions du soir pour cela.
Alors avant de reconstituer la mise en œuvre de cette journée mémorable, nous allons nous remettre, si vous le voulez bien, dans l'ambiance. Les Français espéraient bien sûr qu'il y ait un jour un débarquement allié, mais ils ne savaient pas évidemment quand, sauf peut-être quelques-uns. Je me souviens d'André Frossard qui m'avait dit, puisqu'il était incarcéré à la prison Montluc de Lyon, il m'avait dit qu'un co-détenu l'avait exactement prévu le jour du débarquement, le 6 juin, c'était Marcel Bloch Dassault. Vous connaissiez cette
exactement,
histoire ?
Exactement, bien sûr, d'autant plus que j'ai été déporté avec lui. Alors, Marcel Dassault, en effet, avait pris une feuille de papier et avait dit, bon, les marées s'étend à telle époque, la pleine lune s'étend, la distance, alors là, il était évidemment très fort, la distance des terrains d'aviation britanniques la plus favorable s'étend. En principe, tout devrait aller vers la Picardie, mais comme tout devrait aller vers la Picardie, les alliés sans doute, ils ne débarqueront donc pas en Picardie, mais en Normandie, et ce sera entre le 4 et le 6 juin.
Voici en tout cas, pour ceux qui cherchaient à savoir et à trouver un signe de ce qui se préparait, voici à peu près ce qu'on entendait ce jour-là, si on mettait le bouton de la radio sur la radio de la France Libre, Radio Londres, quelques messages codés comme ceci par exemple.
Afghanistan est désert, la vache soupire, la cigale prend le métro. Le requin avale la truite. Il fait froid l'hiver.
On entendait aussi le fameux message sur les sanglots longs des violons de l'automne. Il annonçait à la résistance que le débarquement était proche, mais seulement à ceux qui connaissaient le code, les grands résistants. Et puis il y eut la veille au soir, le 5 juin, donc le poème de Verlaine avec sa deuxième strophe, les sanglots longs des violons de l'automne, bercent mon cœur d'une langueur monotone. C'était donc le signal. Vous souvenez de ces émissions radio ?
Bien sûr, je me souviens parfaitement de tous les messages personnels passés à l'émission de 21h15, après les appels de Schumann et après les informations. Il n'y avait pas de message général pour la résistance. Il y avait autant de messages qu'il y avait de réseau, autant de messages qu'il y avait de maquis, autant de messages qu'il y avait de villes. Chaque groupe avait ses messages particuliers. Alors, les sanglots longs des violons, il ne faut pas du tout croire que les milliers de résistants, il y avait très exactement 105 réseaux de résistance en Normandie, à peu près 22 000 résistants dans les 5 départements normands. Il ne faut pas croire qu'ils en ont tout de suite su le sens. Seuls les grands chefs en savaient le sens.
Vous disiez tout à l'heure que vous aviez, en tout cas, que les quelques Parisiens qui pouvaient se procurer le journal avaient su qu'il y avait, ou s'étaient doutés qu'il se passait quelque chose de grave en lisant Paris Midi. Ça me pousse à demander à Stéphanie Duncan ce qu'il y avait précisément dans les journaux le jour ou le lendemain du débarquement.
Oui, le lendemain, le 7 juin, le débarquement est à la une de tous les journaux parisiens, en tout cas. Les troupes anglo-américaines débarquent par mer et par la voie des airs, entre Le Havre et Cherbourg, titre Paris Soir, qui ajoute « La riposte foudroyante des formations de sécurité allemandes a permis de remporter les premiers succès ». En effet, cette presse de propagande n'a pas d'état d'âme sur le camp à défendre. D'ailleurs, Lucien Mignoton écrit dans Paris Soir « Sous prétexte de la libérer, les hommes de Roosevelt et de Churchill prennent la France pour champ de bataille. Ils sèment la terreur et la ruine et laisseront la France exsangue et incapable de se relever ». Même discours dans Le Matin, où Robert de Beauplan se félicite de la riposte allemande. Le haut commandement allemand, dit-il, qui a toujours attendu avec impatience cette épreuve de force, oui, est plein de confiance quant à son issue. Et tous les journaux reproduisent en première page le discours du maréchal Pétain, appelant les Français à ne pas participer à la bataille. Dans l'œuvre, Marcel Déa, le fameux Marcel Déa, au contraire, s'impatiente et se déclare prêt à endosser immédiatement l'uniforme de la Waffen-SS. Et voilà comment il décrit le débarquement allié. Écoutez, c'est intéressant. « Les voleurs de notre empire, les assassins de nos villes françaises, développent leurs premières opérations sur cette côte normande où ils venaient autrefois craquer leurs livres sterling et leurs dollars de casino en baccarat. La haine la plus sordide les pousse. Ils ne cherchent qu'à nous piétiner, à nous réduire en esclavage, à nous effacer de la carte du monde. » Dans « Je suis partout », Pierre-Antoine Cousteau, le frère de l'autre, lui aussi aimerait bien que les Français s'engagent aux côtés des Allemands. Mais, dit-il, ce malheureux peuple est tellement intoxiqué, tellement saoulé de mensonges juifs, tellement amoureux de son vieux cancer républicain, que pour une action immédiate, il vaut mieux ne pas compter sur lui. Alors Ladislas, je suis justement allée voir du côté de ces intoxiqués, du côté de la presse clandestine. Par exemple, Libération, l'hebdomadaire créé par le résistant Christian Pinault en 1940. Alors quand celui-ci est arrêté et déporté vers Buchenwald, c'est Jean Texier qui lui succède et c'est lui qui signe ce 6 juin 1944 sous le nom de Serge Bose. Et c'est très émouvant de voir ce journal, qui ressemble plutôt à un tract, tapé sur une mauvaise machine à écrire. Ce 6 juin 1944, l'émotion est lisible. Ainsi, écrit Serge Bose, ce que nous attendions avec tant de fièvre et depuis si longtemps, ce que certains désespéraient de voir est aujourd'hui une réalité. La libération est commencée, ce combat est le nôtre, tous les hommes sont à leur poste.
Oui, il est vrai que ces feuilles étaient rares et difficilement distribuées. Vous citiez le frère du commandant Cousteau, je rappellerai simplement qu'il avait été condamné à mort à la libération, puis gracié beaucoup plus tard par le président de la République. Alors, si vous le voulez bien, Eddy Florentin, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui avait décidé ce débarquement, quand et comment ?
Oui, ce serait assez long d'entrer dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la pensée du débarquement, la pensée du retour en Europe, a commencé, tenez-vous bien, dès le 4 juin 40, alors que la Wehrmacht... 40, je dis bien 40, aucune coquille auditive. Hein. Le 4 juin 40, alors que la Wehrmacht n'est même pas sur la Somme, hein, qu'elle n'a pas encore atteint Paris, elle se porte sur le pays de Caux. Churchill griffonne sur un bout de papier, comme il avait beaucoup l'habitude de le faire. Vous savez qu'il a coupé comme ça l'Est et l'Ouest, sur un bout de papier à Yalta, et que c'est ainsi qu'il a créé à Romanche, en deux lignes, écrit « Mais et si les Allemands peuvent nous envahir aussi facilement, pourquoi n'en ferions-nous pas autant ?» Il remet ce bout de papier à un monsieur qui s'appelle le lieutenant-colonel Dudley Clark, un ancien des bourgs, qui le soir même, rédige un rapport sur les conditions favorables à un retour sur le continent. Et de là part tout un travail sur lequel je ne m'étendrai pas, mais à travers lequel il y a le nom de Mountbatten, bien sûr, part tout un travail qui va aboutir au service des opérations combinées, aux petits raids coup d'épingle, aux grands débarquements d'Afrique du Nord, de Sicile, d'Italie. Tout ce travail va servir à l'organisme créé par la suite.
Avec aussi un échec le 19 août 1942, puisque le débarquement à Dieppe des forces canadiennes échoue lamentablement.
Écoutez, sur cette notion d'échec, les historiens discutent encore. On ne sait pas si Dieppe a été un échec ou pas un échec. Disons que ça a été en tout cas une leçon. Mountbatten a appris beaucoup de choses à Dieppe, qu'il ne fallait pas attaquer d'abord un port de face. C'est depuis Dieppe que l'on a conçu des débarquements sur les plages et non face au port. C'est là où ont été conçues les barges avec les abattants en avant. C'est là où ont été conçus les fameux chars de la ménagerie à Aubard qui sortiront de l'eau au grand étonnement des Allemands le 6 juin 1944. Ce qui est vrai, alors en parlant chiffres, c'est que Dieppe a coûté 6000 morts alors que le D-Day du 6 juin n'en a coûté que... cette formule restrictive est toujours blessante, a coûté 3000 morts. Et que l'on estime que ces 3000 morts sont un peu la compensation des 6000 de Dieppe.
Nous arrivons justement au 6 juin 1944. À la Radio Londres, le général Eisenhower va faire cette brève déclaration au matin du 6 juin. Écoutez.
This is Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force, General Dwight D. Eisenhower.
People of Western Europe.
Peuple de l'Europe de l'Ouest, le débarquement a eu lieu ce matin sur les côtes françaises. Il a été effectué par les troupes alliées. Ce débarquement fait partie d'un plan concerté des Nations Unies pour la libération de l'Europe. Voilà donc ce que disait brièvement Eisenhower. On entendra également le président américain Roosevelt. Il ne déclame pas, il prie et il demande de prier avec lui.
I ask you to join with me in prayer. Almighty God, our sons, pride of our nation.
Donc Roosevelt ne faisait pas d'autres discours. Il s'adressait aussi aux Américains, et bien évidemment, mais aussi aux Canadiens. Les Canadiens sont très nombreux dans ce débarquement.
En effet, le Canada n'a pas mobilisé. Mackenzie King ne pouvait pas. Le Canada, à ce moment-là, n'a que 35 ans d'âge. C'est une population assez composite. Et les populations catholiques, anglophones, francophones ou protestantes ne voulaient pas sembler être à la traîne de l'Angleterre ou venir secourir, il faut le dire parce que c'est vrai, une France qui avait voté Front Populaire. Et si bien que Mackenzie King a dû tourner les oppositions qu'il sentait dans l'opinion publique et qu'il a préconisé le volontariat au lieu de la mobilisation, une mobilisation qui ne sera votée qu'en septembre 1944 pour rien d'ailleurs. Et les Canadiens ont levé 77 bataillons, dont 15 francophones, tous composés de volontaires.
Tous volontaires, donc. Je disais qu'il y avait, en présentant cette émission, qu'il y avait relativement peu de Français, mais quand même, le groupe, les 177 soldats, quand même, du capitaine Kieffer s'est battu avec un courage extraordinaire.
Voilà. Racontez. Alors, oui, je vous attendais un petit peu à ce tournant, d'autant que dans votre chapeau, vous avez dit faible présence française. Alors, les 177 bérets verts que je connais bien, qui m'honorent de leur amitié et qui ont parmi eux 3-4 écrivains, ont parfaitement médiatisé leur participation au débarquement. Mais il ne faut tout de même pas oublier les forces navales françaises.
On ne les oublie pas, mais il est vrai que le rapport de force était nettement en faveur des troupes américaines, britanniques et canadiennes. Alors voici un reportage étonnant. Quand on recherche dans les archives sur le jour du débarquement, eh bien on tombe sur ce document. C'est un document que les Français n'ont pas pu entendre à l'époque, mais qui est tout à fait authentique et qui a été enregistré à bord de l'un des bateaux du débarquement. C'est dit par un correspondant de guerre embarqué dans le bâtiment canadien Lancône. C'est le 6 juin. Et le jour ne s'est pas encore levé. Écoutez.
Ship is just the morning whistle, and now the flak is coming up in the sky. Looks like we're going to have a night tonight.
Oui, je ne vous ai pas traduit parce que vous sentiez, c'est surtout l'ambiance qui est importante dans la qualité de ce document. Alors, on a entendu Eisenhower, Roosevelt et quelques autres, mais pour le général de Gaulle, eh bien, il faudra attendre 18 ou 19 heures. Le général avait refusé, on lui avait fait la proposition, mais il avait refusé de parler juste après l'Américain. D'ailleurs, il était revenu d'Alger quelques heures auparavant, ou 2 ou 3 jours auparavant. Alger, d'ailleurs, où à la demande des Américains, les Britanniques avaient coupé la liaison avec le quartier général de la France libre à Londres. Pourquoi ? Bien, par peur des fuites. Voici un extrait de ce que disait le général de Gaulle.
Pour les fils de France, où qu'ils soient, quel qu'ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. Il s'agit de détruire l'ennemi. L'ennemi qui écrase et souille la patrie, l'ennemi détesté, l'ennemi déshonoré. L'ennemi va tout faire pour échapper à son destin. Il va s'acharner à tenir notre sol aussi longtemps que possible. Mais il y a beau temps déjà qu'il n'est plus qu'un fauve qui recule. De Stalingrad à Tarnopol, des bords du Nil à Bizerte, de Tunis à Rome, il a pris maintenant l'habitude de la défaite. Tout le monde doit prévoir que l'action des armées sera dure et sera longue. C'est dire que l'action des forces de la résistance doit durer pour aller s'amplifiant jusqu'au moment de la déroute allemande.
Oui, il a également donné des recommandations pour que tout se passe, disait-il, en bon ordre avec les armées alliées. Apparemment, d'ailleurs, rien dans le discours. Au premier abord, j'entends, rien ne laisse supposer qu'il y a une certaine méfiance, pour ne pas dire de l'orage, entre De Gaulle et les alliés, parce que De Gaulle a été, c'est vrai, il faut le dire, laissé de côté dans toute cette histoire. Ce que les Français entendent ce jour-là à la radio nationale, c'est par exemple aussi Pierre Laval, le président du Conseil, le numéro 2 après le maréchal Pétain. Il recommande aux Français de ne pas se mêler au combat, puis il poursuit, écoutez.
Une nouvelle épreuve plus dure encore est imposée à la France par ceux qui disent vouloir la libérer, mais qui commencent d'abord par la détruire. En fait, vous êtes les victimes innocentes de leur aveuglement. Aujourd'hui, 4 ans après l'armistice, notre pays de nouveau devient un champ de bataille. Et aux deuils multipliés par les bombardements, s'ajouteront demain la douleur de nouveaux exodes et les ravages de l'invasion.
Et il ajoutait que les Français n'avaient d'ordre à recevoir que du gouvernement, c'est-à-dire du gouvernement qu'il présidait. Vous avez entendu d'ailleurs, il a parlé d'invasion. Est-ce que les Français étaient disposés à croire à ce moment-là au succès de l'opération Overlord ?
Honnêtement, je pense que oui, la notion d'échec, la possibilité d'un échec n'a pas frôlé les esprits, pas plus qu'à un autre moment critique qui n'a plus rien à voir avec le 6 juin, c'est-à-dire à Bastogne. Ce sont les deux grands moments critiques de la libération.
Vous dites ça parce que vous étiez dans la résistance, mais celui qui écoutait la radio nationale, peut-être qu'il était du côté...
Je m'apprêtais, moi, à commenter ce qu'a dit Stéphanie, enfin, ce qu'a rapporté Stéphanie concernant les boursouflures de la presse. Je crois pouvoir être juste en disant que les boursouflures de la presse, les véhémences de la presse, de la propagande d'Achtafel, ou celle de M. Jean-Hérold Paqui, ou celle de Philippe Henriot, ou celle de Radio Paris, n'atteignaient plus les Français.
Le reste dans un instant, après cette musique américaine, et on reprendra avec vous, Eddie Florentin.
Les jours du siècle, le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Notre invité, Eddie Florentin.
Et puis, on entendait American Patrol de Glenn Miller, le grand orchestre, le très grand orchestre de Glenn Miller, un grand, grand succès aux États-Unis. Alors, ceux qui écoutent et croient la Radio Nationale, eh bien, ils entendront bon nombre de reportages vantant les mérites des soldats d'occupation et parlant de la défaite des troupes alliées. Voici donc un exemple, le reportage à l'hôpital de Caen, une ville atrocement bombardée. On vient de regrouper des prisonniers dans cet hôpital resté encore intact.
La troupe des prisonniers, qui se trouve dans l'hôpital de la ville, donc, est composée d'un peu plus de 80 soldats et de 3 officiers. Tous ont l'air absolument exténués. Et cela n'a vraiment rien d'étonnant. Après l'attente énervante, après le régime de véritable guerre des nerfs auquel ils ont été soumis avec la formidable orchestration de la propagande juive. Et puis un jour, après que cette attente était si longue, on leur a dit que leur hache était proche. Ils devaient brûler leurs papiers, leurs documents militaires, de façon que cela ne tombe pas entre nos mains. Et en échange, on leur a donné des francs Roosevelt. Des francs Roosevelt qui sont de petits carrés verts, portant en petit le drapeau français, et qui doit servir, paraît-il, en France, de nouvelle monnaie légale.
Évidemment, cette allusion aux Juifs est scandaleuse, mais cette monnaie dont il parle, ça présageait quoi? La volonté des Américains d'établir une administration américaine sur le sol français?
Oui, ce sont les fameux AMGOT, les Army Military Government Occupied Territories, que les Américains voulaient installer dans les villes françaises parce qu'ils craignaient le désordre, et contre lesquels le gouvernement, tout au moins, la représentation gouvernementale autour du général de Gaulle après le 14 juin, le général de Gaulle est arrivé le 14 juin sur la combattante, et qui était animé par Étienne Boislambert, à contrecarré, comme l'a dit, je crois, François Coulet dans une émission de télé, on a mis tout ça dans les poubelles, hein, on ne s'en est jamais servi.
Pendant 10 jours, dans l'idée de Roosevelt, c'était aussi de placer l'administration américaine en France, donc la France sous tutelle US, ça aurait été une autre histoire. D'ailleurs, 6 000 conseillers américains avaient été formés aux États-Unis pour apprendre à gérer les communes françaises. Les alliés s'attendaient-ils à trouver une résistance moins importante? Est-ce qu'ils croyaient que les valeurs nombreux Allemands étaient tous partis vers l'Est et qu'il restait en France pratiquement que des vieux soldats polonais et puis des très jeunes soldats, des adolescents pour la plupart. Qu'est-ce qu'ils connaissaient du terrain? Est-ce qu'ils avaient eu des renseignements? D'ailleurs, ils savaient que Rommel était parti, lui, se reposer quelques jours en Allemagne, non?
Oui, oui, oui. Et apporter des chaussures à son épouse. Je pense que les Alliés s'attendaient à une résistance beaucoup plus forte. Ils ont été servis par le système dictatorial qui pesait sur les généraux et qui ont empêché les généraux Wehrmacht de formation classique d'agir comme l'entendait leur technique, parce que Hitler seul était en droit de donner des ordres, il était seul en droit de déplacer des divisions dont les généraux avaient besoin.
Et il le faisait à distance, à partir de Berlin. Pour terminer sur une note inhabituelle, plutôt souriante dans une histoire comme celle-ci, voici le témoignage de Maurice Schumann, qui était, vous le savez, la voix de la France à la radio de Londres. Maurice Schumann, qui vient de mourir, voici quelques semaines, il racontait ses souvenirs du débarquement 30 ans plus tard. Nous sommes donc en juin 1974.
Il y a eu des incidents assez amusants ou assez graves. Par exemple, comme mon uniforme, je tenais à avoir un casque français, n'était pas celui des Anglais, je fus arrêté par une demi-douzaine de gaillards appartenant au 4e commando, et parce que je me trouvais entre les lignes, et j'aurais fort risqué de ne pas aller plus loin si je me trouvais parler l'anglais comme le français, si je n'avais pas eu une carte d'officier de liaison que j'ai eu encore la possibilité de montrer. Et puis, deuxième incident, celui-là beaucoup plus amusant, trois Français me montrèrent le chemin à travers un champ de mines. Et comme je les voyais marcher gaillardement, et que j'étais suivi moi-même de plusieurs détachements britanniques, je leur dis, mais enfin, une mine peut éclater d'un moment à l'autre. Et la réponse fut, mais il n'y a pas de mine. Il y a quelques semaines, Rommel a passé une inspection. Les officiers n'avaient rien de prêt à cet endroit précis. Et nous les avons observés, nous avons constaté qu'ils mettaient des pancartes « Achtung Minen » pour faire croire à Rommel que toutes les précautions étaient prises.
En un mot, Eddy Florentin, pour terminer, quelle a été la mobilisation de ce débarquement?
Il y a eu 2 millions de soldats alliés qui sont passés par les plages et les ports de l'Ouest pendant la bataille de Normandie pour se porter sur l'Allemagne. Alors sur ces 2 millions, il y a eu 200 000 tués, blessés et prisonniers, le nombre de tués étant de 65 000 chez les alliés.
Dans la population civile, il y a eu des...
Alors dans la population civile, les chiffres sont encore en cours d'étude. Il tourne entre 25 000 et 35 000. C'est très difficile à chiffrer au regard au nombre de réfugiés, de clandestins, etc.
Et du côté allemand?
Du côté allemand, à la fin de la bataille de Normandie, 200 000 tués et 200 000 prisonniers.
Merci, Eddy Florentin, d'être venu nous parler de ce D-Day, le jour J. Vous avez beaucoup écrit sur le sujet. Je signale entre autres votre dernier livre, « Quand les Alliés bombardaient la France », c'est paru chez Perrin, et sur le débarquement, le guide des plages du débarquement et des champs de bataille en Normandie, c'est paru aux presses de la Cité. À lire également le débarquement, les 100 jours de la bataille de Normandie d'Anthony Kemp chez Ouest France Éditions, et puis un grand classique qui a été réédité récemment chez Flammarion, le livre de Pierre Klostermann, Le Grand Cirque. Et puis à visiter aussi le mémorial de Caen, c'est à quelques kilomètres des plages du débarquement, qui fait notamment revivre à l'aide d'impressionnantes reconstitutions, les plans, les cartes, les matériels utilisés, etc., toutes les grandes opérations de la libération de la France. C'était le 6 juin 1944, le débarquement en Normandie, à la technique Pierrick Monsigny, documentation Jeannine Marc-Peset, Rebecca Danante, archivina Céline Desroches, revue de presse Stéphanie Duncan, réalisation Anne Kobilac.
C'était Les Jours du siècle, une émission de Ladislas de Hoyos.